Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi sur Sud Radio.
Après l'archéologie intuitive dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, nous allons aborder un sujet radicalement différent, quoique vous allez voir qu'il y a des passerelles possibles entre ces deux dossiers. Nous allons parler d'une forme de thérapie tout à fait intéressante où il y a un mélange de mots qui peuvent paraître paradoxal au départ, par exemple intuitif médical, des notions un peu étonnantes comme transrationnel, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous allons découvrir ça à travers le livre de Gabriel Rich-Chapuis qui s'intitule « Guérir des blessures familiales », avec comme sous-titre « Nouvelle perspective thérapeutique », un livre paru dans la collection « Chemin de l'harmonie », une collection que nous avons explorée déjà aux éditions Dervy. Gabriel Rich-Chapuis, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci d'être avec nous en direct depuis la Suisse, puisque vous exercez en Suisse et en France, mais essentiellement en Suisse d'ailleurs, où vous donnez des conférences, vous organisez des stages, bien entendu. Vous vous présentez vous-même comme cela, thérapeute en méthode intuitive et énergétique. Vous basez votre pratique sur plusieurs notions que nous allons donc explorer ensemble, avec une notion sur laquelle vous vous appuyez. Nous ne naissons pas tous égaux, contrairement à ce que l'on pourrait croire à certains égards. On y reviendra donc sous forme de conclusion tout à l'heure. Mais pour commencer, selon vous, la maladie, et ça, je pense que c'est accepté de plus en plus, y compris par le milieu scientifique, la maladie a plusieurs sources de naissance. Elle est multifactorielle, comme vous dites.
Tout à fait.
Quelles sont les différentes grandes raisons qui peuvent déclencher une maladie, selon vous?
Alors, d'abord, il faut voir que dans une distinction très importante qui permet de comprendre les multiples facteurs, c'est que nous avons tous un corps physique,
oui,
cellulaire, sur lequel la médecine travaille.
Exact.
Et puis, nous avons à côté des enveloppes qui s'appellent des enveloppes vibratoires ou énergétiques, qui sont en fait des corps emboîtés les uns dans les autres, comme des poupées russes.
Oui, d'ailleurs c'est une métaphore que vous utilisez dans votre livre.
C'est ça.
Et on y reviendra bien entendu dans tout ce... Enfin, le corps éthérique, astral, mental,
voilà,
causal, spirituel ou divin. D'abord j'aimerais juste que vous nous disiez les sources des maladies. Parce que
le problème vient qu'il y a plusieurs sources, toujours. Je n'ai jamais vu un malade qui n'a qu'une source de maladie, qu'une cause. En fait, il y a toujours plusieurs facteurs impliqués. Et dans ces plusieurs facteurs impliqués, souvent, on n'en voit que un ou deux. Donc, les possibilités existent sur ces différentes enveloppes, vous voyez.
Ouais.
Donc, il y a l'enveloppe physique, bien sûr, mais il y a les autres enveloppes sur lesquelles sont inscrites des informations. C'est pour ça que je parle de mémoire de ces corps.
Ouais.
En fait, quand on regarde les origines des maladies dans mon approche, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs facteurs qui sont là peut-être même depuis 20 ou 30 ans.
Ouais.
Alors, et que c'est une accumulation de ces facteurs qui fait que quelqu'un tombe malade.
Ouais. Alors, selon vous, Gabriel Rich-Chapuis, c'est votre postulat. Évidemment, vous ne rejetez pas la science, au contraire, et la médecine, classique et traditionnelle, elle est extrêmement importante. Et elle a permis à notre société de faire des bons extraordinaires. Ça, nous sommes tous évidemment d'accord sur ce point-là.
Absolument.
Mais vous dites qu'il faut rajouter d'autres thérapies pour avoir une sorte de vision globale de la personne.
Voilà, je pense que la médecine classique est remarquable, nous le pensons tous, et je pense que nous en avons tous profité par moment, mais nous demandons, nous, en tant que société occidentale, à la médecine de réaliser des progrès dans lesquels elle n'est pas spécialisée, c'est-à-dire ces fameuses enveloppes vibratoires ne sont pas touchées par la médecine classique.
Mmh.
Donc, ce que j'appelle de mes voeux, pour ma part, c'est un mariage de raison, c'est-à-dire que il ne faut pas que l'une ait tort pour que l'autre ait raison. Pour moi, tout le monde a raison, simplement nous ne parlons pas des mêmes niveaux.
Oui.
Et que je souhaite, et je le fais déjà actuellement, je travaille avec des médecins qui font de la médecine classique, des chirurgiens, et ils m'envoient leurs patients quand ils ont fait leur part.
Oui.
En fait, l'important est de comprendre qu'on a chacun un rayon à trouver et à travailler.
Mmh.
Et il n'y a pas à s'opposer, il n'y a aucune raison de s'opposer.
Ouais.
Et ça, c'est le tout gros problème que nous avons actuellement. dans nos sociétés.
On va y revenir justement sur ce problème, cette relation un petit peu conflictuelle entre la science dite officielle et les thérapies dites parallèles, précisément.
Oui.
Comment est-ce qu'elles peuvent se marier et travailler ensemble ? Alors, parlons maintenant de ce qui est le postulat de base de votre thérapie, c'est-à-dire de ces corps subtils. Vous avez employé la métaphore très juste des poupées russes, de la plus petite à l'intérieur jusqu'à la plus grande, qui rayonne, enfin, le plus largement possible.
Oui.
Je ne sais pas si on peut rester dans ce style de métaphore.
Tout à fait.
Expliquez-nous cette notion qui, pour vous, est essentielle.
Alors, cette notion, elle est en fait très simple à comprendre. Nous savons tous que nous avons un corps physique, on peut le toucher. Et autour, il y a des enveloppes que l'on sent ou que l'on ne sent pas. Il se trouve que depuis que je suis née, je sens ces enveloppes. C'est un fait comme ça et que je m'y suis intéressée avec le temps. Donc, nous avons plusieurs enveloppes qui entourent notre corps physique et qui lui permettent de vivre. Alors après, effectivement, il faut trouver une méthode qui puisse aller sur ces enveloppes pour trouver des causes que nous ne trouvons pas sur le corps physique. Tout le monde comprendra que si la plus petite enveloppe physique, c'est la toute petite poupée russe, s'il y a un trou dans cette poupée, les trous se seront faits d'abord ailleurs, donc dans les corps extérieurs.
Mm-hmm.
Donc, par exemple, quand vous subissez une opération, vous avez des trous qui sont faits dans vos corps énergétiques. Donc, en fait, pour arriver sur le corps physique, on fait des trous. Et il se trouve qu'il y a des personnes qui ont des trous déjà depuis la naissance dans ces corps énergétiques, pour de multiples raisons, et qu'en fait, il faut travailler à réparer ces trous, ou alors ces nœuds, si on veut rester dans des paraboles.
Ouais.
Et qu'en fait, ça peut s'apprendre, ça peut se traiter. Mais, alors je reste convaincue qu'il faut une grande rigueur, qu'il faut savoir sur quel corps on travaille, et pas aller au petit bonheur la chance.
Mmh.
Ceci dit en passant, je suppose que c'est pour ça que il y a une telle opposition entre les médecines classiques et alternatives. Il n'y a pas assez dans les médecines alternatives des gens très rigoureux qui ont probablement un aspect scientifique aussi en eux. Parce que je crois que quand on l'a, les médecins ou la médecine classique nous respectent tout à fait.
Mmh.
C'est aussi rigoureux que les sciences exactes, en fait.
Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail quand même dans cette notion de plusieurs corps subtils. Ça vous va comme dénomination subtile ?
Tout à fait,
Donc, ils sont au nombre de 5, plus le corps physique, donc ça fait 6. Hein,
voilà.
D'accord. Alors, le corps physique, on connaît, très bien.
Tout le monde connaît.
Alors, comment est-ce que vous définissez les différents degrés des 5 autres corps subtils ? Entrons dans le détail. Est-ce que c'est à partir de la cellule que chaque cellule de notre corps développe ses 5 corps subtils ou c'est une enveloppe globale comme une espèce de combinaison de plongée que l'on aurait de plusieurs couches, comme un oignon, quoi, si vous voulez, qui aurait plusieurs couches.
Vous avez parfaitement raison. On peut tout à fait prendre la combinaison de plongée. Ce sont des enveloppes dites subtiles parce qu'elles sont peu ressenties et très sensibles.
Et
mais effectivement, c'est comme des combinaisons. C'est-à-dire que ce sont plusieurs couches successives qui nous entourent et qui nous permettent de vivre. Si nous n'avions pas ça, notre corps physique ne pourrait pas vivre. La meilleure preuve en est que quand nous décédons, c'est une partie de ces enveloppes qui partent du corps physique et qui laissent l'enveloppe. Par contre, l'esprit avec ces corps physiques part plus haut. Donc, en fait, chaque corps a une raison d'être, chaque enveloppe. Donc, on peut peut-être juste les définir.
Alors, par exemple, le premier, donc, qui est le plus proche du corps physique, c'est le corps éthérique ou électromagnétique, dites-vous.
Voilà. C'est un corps qui est un sas, en fait. C'est un double qui est extrêmement proche du corps physique. Et il est tellement proche qu'en fait, il est l'espace de 2 doigts. C'est ce qu'on appelle aussi le corps vital. Donc c'est un corps qui est très sensible à l'électromagnétique. Par exemple, des gens vont être très sensibles à des lieux où ils se trouvent, à tout ce qu'on appelle la géobiologie.
Oui.
Voilà. Donc les gens sensibles vont ressentir ces variations ou ces perturbations sur leur corps électromagnétique. Et quelqu'un qui est malade a ce corps très dévitalisé, en fait.
Pardon, quelqu'un qui est malade ?
Qui est malade a ce corps très dévitalisé.
Ouais,
il a très peu d'énergie sur ce corps et on va l'observer très vite en intuition ou en radiesthésie.
Ouais. Alors, ça c'est donc le. Est-ce que chacun a une fonction précise ?
Alors, chaque enveloppe a une fonction précise. Ce corps-là est un sas. Les autres sont assez faciles à comprendre. Il y a un corps émotionnel.
Donc le corps astral ou émotionnel,
astral,
oui.
Qui est un corps extrêmement sensible pour chacun d'entre nous parce que nous sommes des êtres émotionnels. Mm-hmm. Et puis après, nous avons un corps mental qui est le monde de nos idées à chacun. Mais là-dedans, il y a deux corps mentaux. Il y a celui de nos idées qui nous restreignent parfois. Puis il y a le corps mental général de l'humanité, qui est ce qu'on appelle le corps mental supérieur. Et là, il y aurait toutes les idées supérieures de l'humanité. On pourrait revenir presque aux idées de Platon. Alors, les vraies idées de l'humanité.
Oui. Il y a le corps éthérique en premier.
Oui.
Le corps astral ou émotionnel Tenel. Que vous avez défini. Le corps mental, donc dit mental inférieur, dites-vous.
Voilà.
C'est-à-dire là, c'est notre propre réflexion, c'est le fruit
oui.
de notre propre réflexion et avancer dans la vie, expérience, tout
oui.
ça.
Hein? Tout à fait.
Notre
oui.
vécu émotionnel, quoi, en quelque sorte.
Oui, à la limite de l'émotionnel et de la compréhension, c'est-à-dire que nous avons tous des croyances limitatives.
Ouais.
Et en fait, c'est sur ce corps qu'on peut agir pour élargir notre horizon intellectuel ou spirituel ou émotionnel, en fait.
D'accord. Et ensuite, donc, le corps causal ou mental supérieur que vous avez défini. Alors là, ce serait, je vais peut-être dire une bêtise, vous allez m'arrêter si ce que je dis est faux. Est-ce que c'est ce que certaines religions ou mystiques appelleraient la mémoire akashique, c'est-à-dire cette espèce de savoir universel de l'humanité, que l'homme a acquis depuis qu'il est debout sur ses deux pattes?
Alors, on pourrait dire ça, que le corps causal est cette mémoire, mais notre corps causal à nous est notre mémoire à nous. Alors qu'effectivement, elle peut se mettre en relation avec la mémoire akashique ou alors ce que Jung appelle l'inconscient collectif.
Oui, d'accord.
Donc, notre corps individuel causal a des petites antennes, chaque corps a des antennes,
ouais.
et il peut très bien se mettre en rapport avec cet immense trésor de l'humanité que suivant les approches on appelle akashique ou l'inconscient collectif
ouais.
de Jung ou n'importe quoi d'autre.
Ouais, ouais.
Voilà, ça c'est effectivement quelque chose qui est acquis au départ quand on vient sur la Terre.
D'accord. Et alors, enfin, le dernier corps, qui est le corps spirituel ou divin. Expliquez-nous ça.
Alors, effectivement, il y a certaines approches qui disent que nous avons deux corps, et spirituel et divin. Moi, je ne pense pas que ça vaille la peine d'entrer dans ces détails,
ouais.
surtout que nous avons déjà une civilisation qui est très peu spirituelle, malheureusement. Donc, je dirais qu'on va dire que nous avons un corps spirituel qui peut correspondre à notre âme. Selon certaines traditions. À certaines d'autres, ce sera le grand esprit, si on pense aux Amérindiens.
Oui.
Et disons, c'est l'étincelle divine que nous avons chacun dans notre corps, quelque part, quand on vient sur la Terre. Voilà.
Ouais.
Et c'est cette étincelle-là aussi qui repart dans l'autre dimension, de l'autre côté du voile, quand on décède. Voilà, nous avons tous cette dimension. Que nous le sachions ou pas et que nous soyons d'accord ou pas d'ailleurs.
Oui. Ça c'est inhérent à l'être humain, quoi.
Exact.
On est d'accord.
Tout à fait.
Bon.
Absolument.
Vous rendez bien compte, Gabriel Rick-Chapuis, que lorsque vous développez ça, je ne sais pas moi, par exemple devant un parterre de médecins ou de scientifiques, déjà le postulat de base de l'existence de ces différents corps, de leur interaction avec le corps physique, vous établissez carrément une passerelle entre le mystique ou ce que les chamans connaissent depuis, enfin, du moins développent depuis des siècles et des siècles, et les mystiques ont développé, etc., et la science officielle pure et dure. Vous imaginez que cette passerelle n'est pas facile à franchir quand même pour des gens cartésiens.
Vous avez tout à fait raison. Il se trouve que j'ai un avantage sur le problème, c'est que moi-même, je suis très cartésienne. J'ai fait des études aussi extrêmement scientifiques de lettres. J'ai fait beaucoup de recherches dans ce domaine. Et qu'il se trouve que moi, si je suis devant un parterre de médecins ou de scientifiques, je vais leur dire ce que je ressens et qui peut être en lien avec ce que eux ils constatent dans leur pratique. Je ne vais pas essayer de les convaincre. Je vais leur dire peut-être même ce que je ressens par rapport à eux. Et en fait, on va avoir un dialogue de savoir pourquoi peut-être un de leurs patients est malade. Je n'ai jamais cherché à convaincre. Je cherche à soulager les gens et je leur montre qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a aussi eu souvent des approches de ce genre et que c'est pas parce qu'on est rationnel qu'on peut ne pas avoir accès à son cerveau intuitif. J'ai cité souvent Einstein dans mon ouvrage. Einstein a toujours fonctionné avec son mental intuitif, comme il le disait très justement. Donc, il y a, à partir de probablement du début du XXe siècle, une scission qui s'est faite entre les sciences physiques et observables, scientifiques, et ce mental intuitif dont parlaient énormément de chercheurs dans d'autres époques. Et je crois que les médecins vraiment ouverts, et j'en connais beaucoup, sont très intéressés par ce genre de discours, à condition qu'on cherche des passerelles avec eux, dans leur vécu à eux de médecins, effectivement.
Mmh,
oui, oui. Donc, je crois qu'il y a un phénomène dans notre société de rejet qui n'est pas non plus sans explication, parce qu'il y a trop de personnes qui agissent de manière dangereuse et inconsciente, on va dire,
ouais,
qui n'ont pas de postulat scientifique derrière. Et là, moi, je comprends très bien que le monde scientifique rejette ces personnes.
Mmh.
Voilà. Donc, je crois que c'est comment on se situe avec eux. Et personnellement, je n'ai jamais eu de problème, parce que d'abord, je ressens beaucoup de choses et je peux leur expliquer.
Ouais,
et puis,
ouais,
deuxièmement, je rejette surtout pas le monde scientifique. Je cherche des passerelles mmh. avec eux.
Ouais, ouais. Gabriel Rich-Chapuis, une première pause dans ces aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, et on va continuer à explorer avec vous, évidemment, votre méthode de thérapie, les résultats qu'elle vous permet d'obtenir, et puis sûrement quelques échecs également, j'imagine, comme tout thérapeute, comme tout médecin, parce que vous êtes humaine et donc forcément faillible, évidemment. On parlera également de notions de transrationnel. Qu'est-ce que vous entendez par là? Comment est-ce que un drame qui peut peut-être s'être déroulé il y a plusieurs générations peut affecter quelqu'un aujourd'hui, et comment le soigner à travers justement ces corps subtils qu'on a défini il y a quelques instants. On a encore du pain sur la planche, si j'ose dire. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédi sur Sud Radio.
Gabriel Rich-Chapuis, qui réside en Suisse, à Genève exactement, est en notre compagnie ce soir sur Sud Radio dans Les Aventuriers de l'étrange. Suite à la publication de votre livre, Gabriel Rich-Chapuis, je vous ai appelé pour vous demander d'être avec nous ce soir. Votre livre s'intitule « Guérir des blessures familiales ». C'est aux éditions Dervy, dans la collection « Chemin de l'harmonie ». Alors, on a posé, il y a quelques secondes, un petit peu le décor, savoir sur quoi est-ce que vous travaillez, quel était votre postulat de base. Parlons maintenant, après avoir découvert les corps subtils, votre manière de soigner les gens. Le plus simple, c'est que vous nous racontiez, par exemple, une consultation, quelqu'un qui vient vous voir, un cas qu'on va ensuite décortiquer.
Alors, prenons un cas classique, ouais, de quelqu'un qui a été soigné, j'en ai énormément de ce type, mm-hmm, de femmes, mettons entre 30 et 40 ans, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui ont, malgré tout, fait tous les traitements possibles,
ouais,
pour avoir des enfants. Elles n'y parviennent pas, donc elles viennent chez moi avec cette demande, est-ce que je peux en avoir ? Donc, bien sûr, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je ne suis pas infaillible. Et je regarde d'abord toujours en radiesthésie si je peux aider quelqu'un.
Ouais.
Parce qu'il y a effectivement des cas où je ne peux rien faire. Et je ne donne pas d'illusions aux gens. En général, je leur explique que je n'ai pas accès à leur mal-être. Mmh. Et on va essayer de trouver pourquoi et on va en parler. Mais il y a des gens où je ne peux rien faire. Le
ouais.
cas de ces femmes, dans 95% du temps, je peux leur permettre d'avoir des enfants. Pourquoi ? En fait, je découvre pratiquement toujours sur la mémoire, donc de leur enveloppe subtile, des drames d'enfants qui se sont passés avant elles. Soit ces femmes ont été une enfant de remplacement, c'est-à-dire qu'elles sont venues après le décès d'un frère ou d'une sœur morte,
mmh,
soit il se trouve que dans la transgénéalogie, donc dans les générations avant elles,
ouais,
il y a eu des décès d'enfants. Des décès, il suffit pas d'en avoir qu'un, il suffit souvent d'avoir des gros drames, de perdre un ou deux enfants, ou que la mère soit morte en couche, ou que les décès n'aient pas été dits, ni pleurés, et que ça devienne un secret de famille. Donc, dans 95% du temps, si je dégage ces mémoires, si je les efface, les femmes ont des enfants. Et j'en suis extrêmement heureuse, parce qu'en fait, effectivement, elles n'ont même plus besoin de faire un traitement de fécondation à ce moment-là. Si on a trouvé les causes multifactorielles sur ces mémoires, il faut parfois quelques mois pour les enlever, eh bien, tôt ou tard, un jour, leur corps va repartir, leur corps physique va repartir avec une autre information qui est celle que ce n'est pas dangereux d'avoir, de porter un enfant puisqu'on va le perdre. Ouais. En fait, il se trouve que dans le co-inconscient familial, il y a une notion qui perdure sur, en général, 5 à 6 générations, que les drames qui se sont passés laissent des traces dans la mémoire des corps. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes tous un maillon dans une systémie familiale, et une systémie non seulement présente, mais aussi passée. Mmh. Et donc, quelqu'un qui arrive dans ce que j'appelle le moule à gâteau de la famille...
Oui, 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 c'est une belle métaphore, oui, effectivement.
Voilà.
Développez-la. Oui, oui.
Alors, si vous voulez, il y a un grand scientifique qui s'appelle Sheldrake qui a expliqué ce que sont des moules morphogénétiques. Mmh. Ce serait
Robert comme Sheldrake, des... l'anglais, oui. Mmh.
Voilà, ce seront une espèce des patterns, comme des modèles dans lesquels on arriverait sur la Terre, et comme les végétaux arrivent, ou comme les animaux arrivent. Mmh. Mmh. Donc, si vous arrivez dans un moule qui doit donner un lapin, vous allez devenir un lapin. Mmh. Si vous venez dans un moule qui est humain, vous arrivez dans une famille précise, et dans cette famille, il y a un certain nombre d'informations qui ont moulé la famille, qui ont donné lieu à cette famille dans laquelle vous êtes, ouais, actuellement. Mmh. Et donc, moi j'appelle ça le moule à gâteau, pour que tout le monde comprenne. Et dans ce moule, quand on vient au monde comme étincelle divine, forcément, on se mais à l'unisson de tout ce qui s'est passé dans cette famille.
Oui, d'ailleurs, il y a un vieux proverbe français qui dit « les chiens ne font pas des chats ».
Exactement, c'est tout à fait ça.
Oui, non, mais c'est la tradition populaire qui est extrêmement sage. Ouais.
Oui, tout à fait sage, exactement. Oui. Et alors, si on vient dans cette famille, on va prendre le pattern de la famille et ensuite on va recevoir des informations qui viennent de la transgénéalogie.
Quand vous dites le pattern, c'est quoi ?
Donc, c'est le modèle, on va dire. Ouais. C'est comme un modèle pour faire un vêtement aussi.
D'accord, oui, oui. Mm-hmm.
Voilà, et c'est ce que j'appelle le moule à gâteau. Et sur ce moule à gâteau, si je regarde, je vais ressentir beaucoup d'informations. Et tout le monde ne prend pas les mêmes. C'est-à-dire que ça dépend de la place que nous avons dans la fratrie. Ça dépend si on est un homme ou une femme, si on est le premier ou le quatrième.
Ouais.
Voilà. En fait, il y a beaucoup de paramètres, de facteurs qui sont différents si on est un homme ou une femme dans une famille, suivant ce qui s'est passé.
Mmh.
Donc, par exemple, je parle de ces femmes, je retrouve très souvent, sous 3 ou 4 générations, des femmes qui sont mortes en couche, ou des femmes qui ont eu des illégitimités et dont on a caché les enfants,
mmh,
ou des problèmes d'illégitimité pendant la guerre, et ces enfants ont été cachés, voire tués, et après, le secret de famille reste sur les femmes que je vois aujourd'hui.
Mmh. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail. Une famille, une dame vient vous voir, elle ne peut pas avoir d'enfant malgré toutes les tentatives qu'elle a réalisées avec son compagnon. Bien. Vous cherchez donc des traces, des impacts en quelque sorte, dans ces corps subtils.
Tout à fait.
Qui vont vous donner des indices et vont vous faire remonter dans le temps, dans l'histoire de cette famille, que elle-même d'ailleurs, cette patiente, ne connaît pas.
Alors, tout à fait. Les gens ne connaissent souvent pas leur histoire.
Oui.
Mais en fait, avec la radiesthésie, on peut être presque sûr avec de l'exercice, bien sûr, et de l'expérience.
Mmh.
On peut être sûr. Je vais voir quelqu'un et je vais sentir, par exemple, 3 enfants décédés. Et on va chercher systématiquement à trouver. Je pense à une jeune fille que j'ai eue, qui était une Parisienne d'ailleurs, qui avait des migraines épouvantables. Elle avait 12 ans et on lui proposait de faire un stage d'une année dans un hôpital tellement elle était mal.
Mmh.
Et en fait, avec ses parents, je suis remontée sur les 2 familles, sur 4 générations. Et il m'a fallu une année à raison d'une séance par mois. Mais cette jeune fille est en pleine forme maintenant, elle n'a plus jamais de troubles, mmh, et elle n'a pas pris de médicaments.
Et quelle était l'origine donc de ce...
Il y avait sur les 2 familles des problèmes de maternité mal passés, donc ça suppose beaucoup de problématiques. Il y avait aussi des enfants qui ont été tués à la guerre. Il y a les guerres, malheureusement, les 2 guerres mondiales ont laissé des traces énormes dans les transgénéalogies.
Mmh.
Et en fait, j'ai trouvé des informations des 2 côtés, des 2 familles sur 4 générations. Donc, il pouvait y avoir des illégitimités, des enfants qui sont morts, qui ont été cachés,
ouais,
ou des enfants qui ont été cachés parce qu'ils étaient le fruit d'une relation incestueuse, etc.
Mmh.
Et en fait, au fur et à mesure que je dégageais, ce qui était incroyable, c'est que les parents ont trouvé les informations dans leur famille en les cherchant.
Ouais.
C'est comme quand on touche quelque chose, eh bien la synchronicité nous permet de la trouver. Et ça, c'est très impressionnant parce que ça m'arrive très fréquemment.
Mmh. C'est-à-dire que vous avez appris la possibilité d'existence de secrets de famille concernant un enfant illégitime, oui, ou un enfant décédé à cette patiente. Vous avez dit, mais demandez à votre mère ou à, voilà, votre grand-mère.
Oui.
Le problème, c'est que, bon, une, déjà, ça demande un certain courage parce qu'il faut aller voir sa mère ou sa grand-mère en disant, dis donc, mamie, le joli garçon blond aux yeux bleus, là, ce serait pas le fruit d'une liaison avec un Allemand qui est passé. Il y a eu de belles histoires d'amour, mais qui malheureusement étaient contre le cours de l'histoire. Et donc, ils se sont finis en drame. Bon, bien. Et puis, en plus, on n'a pas à les juger. Mais donc, déjà, il faut que la grand-mère accepte de mettre ça sur la table, parce que pour elle, c'est une souffrance, évidemment. Donc, ça crée des tensions comme ça, mais qui sont, selon vous, salutaires pour dénouer, justement, les tensions qui existent.
Alors, ce qui est évident, c'est qu'il y a des familles où on ne peut de toute façon pas parler, et ce n'est même pas la peine de commencer. Donc, je propose aux gens qui pensent que ce serait possible de parler, de le faire. S'ils pensent qu'ils peuvent pas, on va pas forcer. Parce que moi, je peux faire suffisamment avec mon ressenti intuitif, ma radiesthésie.
Oui.
Donc, de toute façon, la personne ait parlé ou trouvé les informations, ça va aider à dénouer et à créer un dialogue dans une famille. Mais pour moi, ce n'est pas indispensable pour soigner la personne.
D'accord.
Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu parler.
Eh ben, si ça remonte à la quatrième génération, ils sont peut-être décédés. Donc,
De toute façon, justement, parfois des gens trouvent des archives. Parfois, ils vont dans le village et ils trouvent qu'effectivement, il y a eu un enfant qui est né dans un mariage avec un Allemand. Toutes ces choses, je les vis tous les jours.
Ouais.
Donc, que les gens puissent en parler n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est que les gens qui sont détenteurs de cette information après le disent à leurs enfants. Ça, c'est pour moi très important qu'il n'y ait plus de secrets de famille. Parce que ça permet à ce que ces trames soient nettoyées et allégées.
Alors, c'est là où on en revient à la notion que j'ai évoquée tout à fait au début de notre conversation. Nous ne naissons pas tous égaux. Alors, pourquoi, après avoir discuté depuis presque une demi-heure avec vous, on comprend que quand on est déjà porteur, je dirais, du bagage que la famille nous met sur le dos, qu'on le veuille ou pas, de toute façon.
Tout à fait, exactement. Nous sommes porteurs d'un message inconscient que la famille met de manière, on appelle ça co-inconscient, c'est-à-dire c'est plusieurs membres de la famille qui portent cette information et qui désignent, paraît-il inconsciemment, selon les spécialistes, une personne pour porter enfin tous les problèmes de la famille.
Le fardeau.
Voilà, le fardeau. Ce qu'on appelle, dans cette terminologie, le patient désigné. Dans chaque famille, il y a un patient désigné qui vient essayer de nettoyer la famille. À la façon un petit peu d'un bouc émissaire, quand même. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas conscient, aucun membre ne le sait, mais il y a un jeu systémique qui s'installe, qui fait qu'une personne est désignée pour nettoyer tout ça.
Oui.
Donc, en fait, nous ne naissons pas égaux parce que, effectivement, d'abord, nous l'avons dit, nous avons plusieurs corps. Donc, même le corps physique des êtres que nous connaissons, ils ne sont pas égaux.
Oui.
Nous connaissons des gens qui sont très solides et d'autres très faibles.
Et
puis, même dans les enveloppes énergétiques, il y a de très fortes différences. Donc, on met deux personnes et même deux jumeaux, parce que j'ai beaucoup de jumeaux autour de moi, eh bien, ils n'ont pas du tout les mêmes force dans leur corps physique et énergétique, et donc dans leur impact aussi de ce qu'ils ont reçu de leur famille. Donc effectivement, nous ne sommes absolument pas égaux depuis le départ.
Bon, ben oui, cette
il faut accepter, je crois.
Ah mais tout à fait, et puis bon, ça paraît tout à fait normal et évident quand il suffit de regarder les gens autour de nous, les gens vivent autour de nous pour s'en persuader, bien entendu. Gabriel Rick-Chapuis, une pause à nouveau dans Les Aventuriers de l'étrange, et on se retrouve ensemble pour continuer à discuter et à découvrir donc cette thérapie que vous avez découverte vous-même et installée petit à petit, et qui est le fruit de ce livre, le livre est le fruit de cette recherche, Guérir des blessures familiales. C'est aux éditions Dervy dans la collection Chemin de l'harmonie. À tout de suite.
Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi sur Sud Radio.
Guérir des blessures familiales, ça paraît possible. Tout le monde a entendu plus ou moins parler de psychogénéalogie. Là, nous parlons de thérapie transrationnelle. avec mon invité de ce soir, Gabriel Richapuis, qui exerce à Genève, en Suisse et en France. Gabriel Richapuis, vous êtes avec nous en direct depuis Genève. Vous avez publié donc ce livre dans la collection Chemin de l'harmonie, aux éditions Dervy. Parlons de l'impact que peut avoir un défaut dans un des corps subtils sur le corps physique. Là, vous avez parlé de jeunes femmes ou de femmes qui ont beaucoup de problèmes pour avoir un enfant, certes, mais ça se traduit par d'autres problèmes également, psychiques, psychologiques ou physiques d'ailleurs.
Alors, bien sûr, donc juste aussi pour préciser, j'ai écrit un premier livre où j'explique toute cette méthode transrationnelle. Ce premier livre s'appelle « La guérison à ses raisons
oui, »
que la raison ne connaît pas, qui explique bien mon approche, c'est-à-dire qu'il y a dans les guérisons beaucoup de paramètres que nous ne connaissons pas par notre propre raison, qu'on reconnaît parce que Einstein appelle le mental intuitif. Donc ça, c'est aussi toute ma première approche de mon premier livre. Alors, ceci dit, là-dedans, dans chaque personne qui arrive, il y a, par exemple, dans les cas de cancer, il peut y avoir eu ce qu'on appelle des trous dans la coque. Donc, dans ces fameux corps énergétiques, il y a pu avoir des trous. Et il va falloir qu'on répare ce trou. Autant la médecine va s'occuper, par exemple, d'un cancer du sein ou d'un cancer du poumon ou des intestins, autant il va falloir que moi, parallèlement, je trouve la cause dans ces corps énergétiques de ce cancer. Voilà. Et ce cancer peut avoir une origine seulement de la vie de la personne ou bien avoir effectivement des paramètres qui remontent au-dessus dans la transgénéalogie.
Alors, Gabriel Richapuis, là, nous marchons sur des œufs, donc soyons extrêmement précis et prudents. Vous n'êtes pas Jésus-Christ réincarné capable de guérir tous les cancers, nous sommes d'accord.
Bien sûr.
Voilà, pour que pas donner de faux espoirs
oui,
non plus à
celles
qui nous
important.
Écoutent, soyons très très clairs. De toute façon, vous vous appuyez sur tout ce qui est radiothérapie, chimiothérapie, etc.
Bien
enfin,
sûr.
Toute la batterie, évidemment, que la science classique, dite classique, met à la disposition des patients et elle fait d'énormes progrès. Vous pouvez travailler en collaboration avec un médecin pour essayer d'ailleurs beaucoup de cancérologues admettent maintenant que proposent à leurs patients une psychothérapie déjà. Donc il y a également du côté de la science dite classique l'ouverture de cette voie vers une compréhension de soi-même. C'est-à-dire que vous pensez que alors question, est-ce que tous les cancers sont générés par un problème psychosomatique? Est-ce que tous les cancers sont psychosomatiques?
Pour moi, c'est pas comme ça que je le dirais d'abord.
Ouais.
D'abord, j'insiste effectivement sur le fait que je demande à tous mes patients de suivre leur traitement médical. Mm-hmm. Autrement, je ne les reçois pas. Ça, c'est la première chose.
Mm-hmm.
Parce que, encore une fois, je l'ai dit, ils agissent sur le corps physique et moi, j'agis sur un autre niveau qui est vibratoire. Donc, rien n'est incompatible.
Mm-hmm.
Maintenant, le terme psychosomatique me gêne un peu dans la mesure où il aurait l'air de dire que parce que quelqu'un a un problème dans l'esprit, il a un problème dans son corps. Or, moi, je constate pas du tout ça.
D'accord.
Donc, je dirais que je préfère dire qu'il y a des causes dans la mémoire énergétique de la personne qui font qu'elle a cette pathologie. Mais dans ce corps énergétique n'est pas forcément un problème de la personne. C'est là qu'il faut voir qu'elle a vécu des drames, peut-être qui n'étaient pas les siens. Elle a été dans un milieu où elle a senti des choses. Je pense à des patients jeunes qui ont des leucémies ou des cancers assez graves.
Des fois, des enfants, oui.
Mais beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup d'enfants dans ma clientèle. Et ils n'ont pas vécu le drame, eux. Ils l'ont vu autour d'eux. Voilà. Donc, c'est ça, j'appelle pas ça psychosomatique.
Nous sommes
moi.
D'accord. Ouais.
C'est plus large, c'est plus systémique, c'est plus environnemental, on va dire. C'est plus global, on va dire.
Et voilà. Là, vous développez une notion de trame, d'ailleurs.
Voilà.
Alors, expliquez-nous ça,
Je dirais que nous sommes tous, donc, nous, petites poupées russes, dans une trame, insérées dans une trame familiale, comme si nous étions reliés par un canevas. Ça, c'est une réalité. Que nous en ayons conscience ou pas, moi je le vois tous les jours, et que à partir du moment où je nettoie la trame, les autres gens vont mieux aussi. Il suffit que je travaille sur un patient pour que la famille aille mieux. Donc, ce qui explique bien cette notion de trame. Donc je pense à effectivement beaucoup d'enfants malades, leur pathologie n'est pas de leur fait. Ils ont vécu, ils ont ressenti par exemple un drame de leurs parents ou un de leurs grands-pères, de leurs grands-parents est mort dans un certain type de drame. En fait, les enfants jusqu'à 12-13 ans qui ont des cancers, ça ne leur appartient jamais en propre seulement. Ça appartient à la trame. Donc, disons que la meilleure façon de pouvoir constater ça, c'est de voir tous les cancers d'enfants.
Oui.
Et moi, je travaille beaucoup là-dessus parce que je pense que quand on aura compris ça, on pourra soulager au moins beaucoup. Maintenant, l'autre aspect que vous avez abordé, qui est que effectivement, nous ne sommes pas tout puissants. Pour moi, c'est évident. Et d'abord, je m'affirme comme croyante. Il y a, nous avons tous un chemin de vie et un terme à ce chemin de vie. Il est hors de question pour moi de penser qu'on pourrait aller au-delà. Ce qui me tient à cœur, c'est de soulager les souffrances et peut-être de leur donner un sens si c'est la fin de notre vie. Mais il ne faut pas imaginer qu'effectivement cette thérapie peut tout soigner.
Ouais.
Elle peut abréger des souffrances peut-être, elle peut guérir des gens si cela appartient à leur chemin de vie, et puis surtout elle peut donner un sens qui parfois est essentiel si on ne peut pas guérir.
Est-ce que vous pouvez nous rapporter un exemple de cas à qui vous avez eu affaire qui rentre dans ce cadre-là?
Donc de quelqu'un que j'ai pas pu sauver, par exemple?
Oui.
J'en ai beaucoup. Je pense à une femme que j'ai eue quelque part en France, qui m'a contactée très tard. Malheureusement, elle est morte d'un cancer de l'utérus à 36 ans. Je l'ai eue très tardivement. Donc déjà aussi une notion à comprendre, c'est que si moi j'arrive trop tard et que le corps physique est trop détruit, je ne pourrai rien faire. Je ne pourrai pas réparer. Même si je trouve l'information et les causes, ce qui déjà est très important pour les personnes, j'arrive trop tard dans le processus physique, de délabrement physique. Et voilà, cette femme, eh bien, j'ai eu des relations avec elle 2-3 fois, malheureusement, parce qu'elle habitait loin et que j'ai beaucoup de travail, j'ai pas pu me déplacer très vite, mais elle avait lu mon livre, elle voulait trouver pourquoi elle avait ce cancer, et ensemble, dans la toute fin de sa vie, nous l'avons trouvé. Elle a été très apaisée de comprendre que c'était pas de sa faute. Donc il y a aussi une notion de culpabilité qui tombe quand on trouve des raisons qu'on peut retrouver ensemble, mais c'était effectivement beaucoup trop tard, et elle l'avait compris. Je suis très claire avec les patients. Dans ce genre de cas, je leur dis que je ne pourrais pas les soigner. Par contre, je veux bien être là pour les accompagner et trouver des causes.
Et en l'occurrence, vous pouvez le dire, la cause, là, c'était quoi?
Alors là, il y avait une multitude de causes aussi. C'était une personne qui habitait l'Amérique du Sud, une famille assez aisée. Sa cousine avait été enlevée dans son jardin devant elle. Et ensuite, on a remonté que sa tante avait perdu un enfant en bas âge. Il y avait une multitude de facteurs, d'ailleurs, que j'écris dans le livre, puisque c'est un des cas que je donne. Je me souviens plus, il y avait au moins une dizaine de facteurs. Donc, c'était évident qu'elle ne pouvait pas rester en vie avec tout ça. Donc, elle, inconsciemment, sentait qu'elle s'en sortirait pas, et elle sentait qu'elle était chargée de beaucoup trop de choses. Et en ce sens, elle avait raison.
Quels sont les corps subtils atteints et qui créent des pathologies physiques? Est-ce qu'il y en a un plus particulièrement que l'autre?
On pourrait dire qu'en premier lieu, le corps émotionnel est très souvent atteint.
Bien sûr, les drames
nous atteignent tous dans notre besoin d'amour. Maintenant, il y a aussi des informations qui se trouvent sur le corps spirituel et qui peuvent grandement abîmer la structure énergétique, dans la mesure où chaque personne à qui arrive un drame va se demander pourquoi ça lui arrive sur elle. Et ça, on voit dans les familles ce que les gens me rapportent comme une espèce de malédiction. Ils me disent, dans ma famille, il y a des malédictions. Et ça, c'est parce qu'en fait, dans les générations antérieures, il y a eu cette notion que c'est pas juste, Dieu ne doit pas exister, c'est pas possible, nous on a plus de drames que les autres, et du coup tout le corps spirituel de la famille est perturbé aussi. Donc on dirait que grosso modo, il y a quand même le corps émotionnel en premier, le corps spirituel et le corps mental, parce qu'en fait si on n'accepte pas et qu'on peut pas comprendre pourquoi ça nous arrive, alors effectivement on s'inscrit dans la lignée de la famille, que c'est injuste, qu'on comprend pas, et une espèce de révolte sourde qui s'installe.
Mais alors, dites-moi, Gabriel Rick-Chapuis, que peut-on faire pour éviter de venir vous voir? Je veux dire, par là, vous savez, c'est comme la médecine chinoise.
Oui.
En termes de... Je veux pas vous saper votre commerce, loin de là. Mais...
Pas du tout. Je risque pas, de toute façon, ouais.
En termes de prévention, vous savez que il faut vraiment s'inscrire dans un chemin de vie, de quelle manière pour réussir à avaler les drames que l'on vit, etc. Enfin, Qu'est-ce que vous préconisez ? D'ailleurs, quand vous soignez un patient, vous lui donnez des clés pour qu'il puisse continuer à vivre normalement, enfin normalement, bien.
Alors absolument. La première chose que je conseille aux gens, c'est de lire un certain nombre d'ouvrages de psychogénéalogie pour comprendre comment ça marche.
Ouais, ouais.
Donc voilà, bon, bah, mon ouvrage maintenant parle beaucoup de cas transgénéalogiques. Je leur propose de comprendre déjà ce qui peut arriver dans une famille et dans leur corps énergétique. Après, il y a une deuxième étape où je leur apprends à se nettoyer leur corps énergétique.
Eux-mêmes.
Donc, eux-mêmes. Donc, je donne des séminaires grand public où les gens peuvent apprendre. Ils peuvent apprendre ça à d'autres endroits, peu importe. Mais disons, à gérer leur énergie au quotidien. Je pense que c'est extrêmement important. Moi, j'apprends dans mes formations à nettoyer son corps vibratoire comme on nettoie son corps physique tous les jours. Ça ne viendrait à l'esprit à personne de ne pas se laver. Eh bien, pour moi, ça ne vient plus à l'esprit dans ma tête de ne pas laver mon corps énergétique tous les jours.
Ouais. Donc, voilà, c'est... D'accord. Ouais.
Voilà, c'est une espèce d'hygiène de vie qu'on acquiert très rapidement, que j'ai énormément de patients qui ont acquis. On peut l'acquérir en une journée. Et effectivement, je pense qu'il faut pousser les gens à pouvoir prendre des prises de conscience de ces mécanismes et voir qu'on n'est pas impuissant. Je crois que ce qui est très important, moi les patients, je les reçois peu parce que je suis très débordée, mais je leur donne des clés et je leur propose de venir au moins une fois à un séminaire pour apprendre la base. Et après, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Énormément de mes patients se débrouillent tout seuls. Donc, je crois que c'est une hygiène de vie aussi de savoir qu'on a des enveloppes et qu'elles peuvent être atteintes.
Dernière question, Gabriel Rick-Chapuis, à titre de conclusion, parce que malheureusement, l'heure tourne. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, qui avez plutôt une formation scientifique en lettres, à entrer dans cette voie-là?
Alors, pour moi, c'est extrêmement simple. J'ai une formation très classique, mais j'ai toujours été malade depuis toute petite. Donc, une santé extrêmement handicapée. Plusieurs fois, enfin deux fois, très fortement, j'ai fait une expérience de mort imminente. Donc, j'ai beaucoup vécu les hôpitaux. Je n'ai cessé de chercher pour moi d'abord. Et comme je l'explique dans mon premier ouvrage, c'est moi la rationnelle qui est devenue une adepte de l'intuition. Parce que pour moi, je voulais trouver des sens. Pour moi, je voulais me sortir de cet état. Donc, une fois que j'ai trouvé ces sens, ces clés pour moi, je n'ai eu de cesse d'essayer de les transmettre. Voilà, c'est très simple. Ça vient de ma propre expérience. Parce que si je n'avais pas été malade moi-même, je n'aurais pas fait le pas de passer à l'intuitif. Parce que je suis très rationnelle quand même. J'ai trouvé la passerelle de l'harmonieuse, on va dire, entre mon rationnel et mon intuitif.
Merci beaucoup en tout cas Gabriel Rick-Chapuis pour cette conversation délicieuse et enrichissante. Je rappelle le titre de votre livre, donc Guérir des blessures familiales, c'est aux éditions Dervy dans la collection Chemin de l'harmonie, et puis votre premier livre également aux éditions Dervy, La guérison a ses raisons que la raison ne connaît pas. Merci bientôt et merci et à bientôt. Pardon, j'ai raccourci sans vouloir la phrase. Merci, passez une bonne fin de soirée et à très bientôt pour d'autres ouvrages, j'espère en tout cas.
Merci beaucoup, monsieur. Et bonne soirée à vous.
Merci, au revoir.
Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédit. Louis Bénédit. Sur Sud Radio.
Et bien voilà, c'est terminé pour les aventuriers de l'étrange. On se retrouvera demain soir pour, je vous le rappelle, la toute dernière émission des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Effectivement, je suis appelé vers d'autres fonctions, donc je quitte cette grande maison pour rejoindre, pour ne rien vous cacher, l'équipe de la mairie de Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne où je vais travailler désormais. Voilà, donc demain soir, dernière émission sur Sud Radio avec pas mal d'invités et évidemment pas mal de sujets à partir de 22h jusqu'à minuit. Je vous rappelle quand même, enfin je vous apprends si vous venez juste d'arriver, quelques nouvelles. La publication d'abord des deux premiers tomes d'une collection que je vais avoir le plaisir de diriger aux éditions Dervy. La collection de livres s'appelle Aventuriers de l'étrange. Le tome 1 et le tome 2 vont paraître le 21 avril dans toutes les bonnes librairies, Virgin, Fnac, tout ça, tout ça. Le tome 1 est consacré au NDE. J'ai écrit donc la partie témoignage et Jocelyn Morisson, le journaliste scientifique, a écrit la partie scientifique. Le tome 2 est consacré aux rêves prémonitoires. Donc j'ai écrit la partie témoignage et Pierre Massias du site psylande.org a écrit la partie scientifique. Ces deux ouvrages, donc, je vous le rappelle, seront en librairie le 21 avril. Il y aura d'autres livres qui vont sortir. Le tome 3 et 4 prévus donc pour septembre prochain auront pour thème les maisons hantées, et les poltergeists et puis le phénomène des apparitions. Rendez-vous donc demain soir, 22h minuit, pour la dernière des Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Passez une très bonne nuit.
Les Aventuriers de l'étrange, Louis Bénédi sur Sud Radio.